Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte de série du média suivant. La presse. Au programme, un appel à limiter l'usage de glyphosate. Trois femmes, trois générations, trois avortements. Et une cause étonnante sur certaines infections urinaires. Bonne écoute.
Un appel à limiter l'usage de glyphosate. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 8 avril 2023 dans La Presse. La modernisation du Code de gestion des pesticides, proposé par Québec, qui fait l'objet d'une consultation publique jusqu'à ce samedi, s'attire des commentaires positifs, mais aussi des demandes de correctifs. Les herbicides contenant du glyphosate, comme le Roundup, ne devrait plus être vendu directement aux particuliers, réclament plusieurs voix. L'une des choses qu'on salue énormément, c'est que le Code va étendre l'interdiction au-delà de la surface gazonnée pour inclure l'ensemble des espaces verts et l'intérieur des bâtiments, a commenté Nadine Bachan, analyste principale, agriculture et alimentation chez Équiterre, en entrevue téléphonique. C'est quand même un grand pas en avant, nous a aussi dit Micheline Lévesque, présidente de Solutions Alternatives Environnement, SAE, qui a aidé plusieurs municipalités à se doter d'une réglementation anti-pesticides plus sévère que l'actuel Code provincial en vigueur depuis 2003. C'est un pas dans la bonne direction, estime aussi la ville de Granby, en Estrie, qui a renforcé son propre règlement en début d'année. Avec une réglementation qui s'applique à l'ensemble du Québec. Cela évite les disparités d'application entre les différentes villes, a relevé l'attaché de presse de la mairie, Cédric Beauregard, par courriel. Le nombre d'ingrédients actifs interdits dans les produits vendus aux particuliers sera presque triplé, passant de 22 à 61, prévoit le nouveau code. Une hausse remarquable, ont reconnu les organismes victimes des pesticides du Québec et Vigilance OGM dans un communiqué conjoint. Toutefois, le glyphosate, herbicide connu sous la marque Roundup, manque à l'appel, ont-ils dénoncé dans un point de presse tenu devant le Parlement le 3 avril 2023. Les deux groupes demandent à Québec d'ajouter le glyphosate à sa liste d'interdictions de vente aux particuliers. Ils citent notamment les changements promis par Bayer, le fabricant du Roundup aux États-Unis. Dans les produits destinés au marché américain des pelouses et jardins résidentiels, le glyphosate sera remplacé par d'autres ingrédients actifs à partir de 2023, a annoncé Bayer il y a 2 ans. Un geste posé uniquement pour gérer les risques de poursuite et non en raison d'inquiétudes quant à l'innocuité, précise le site de la multinationale. Victime des pesticides et Vigilance OGM demande à Québec de niveler par le haut et aux citoyens de participer à la consultation. Équiterre recommande aussi d'ajouter les herbicides à base de glyphosate à la liste des interdictions de vente aux particuliers. Montréal et Granby sont les deux seules villes québécoises à avoir adopté de telles interdictions. Cette dernière invite Québec à considérer de modifier son règlement avant son adoption et d'ajouter le glyphosate, a commenté la mairie. Le glyphosate n'a pas sa place en milieu urbain, nous a aussi déclaré le cabinet de la mairesse Valérie Plante. Pour les problèmes graves d'espèces exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon, la berce du Caucase ou l'herbapus, on a aucun autre outil de contrôle que le glyphosate en ce moment, note la présidente de SAE. Ces cas extrêmes, étant gérés par des firmes spécialisées, on pourrait se passer d'une utilisation citoyenne de ces produits-là. Le cercle barré rouge disparaîtra des affichettes des firmes qui appliqueront des biopesticides ou des ingrédients comme le borax, remplacé par un cercle barré jaune, prévoit le nouveau code. Équiterre et Mme Lévesque demandent le maintien du rouge. Autrement, les citoyens risquent de penser qu'il y a moins de dangers et de faire moins attention, explique cette dernière. Même si on améliore le code de gestion et qu'on resserre les règles, serons-nous davantage en mesure de l'appliquer? A soulevé la conseillère en environnement de la ville de Salaberry de Valleyfield, Marie-Lou Lacasse, par courriel. Même après avoir été trouvée en défaut, des entreprises continuent d'appliquer des pesticides interdits à Salaberry de Valleyfield, parfois à l'insu des clients qui font appel à leur service, avait dénoncé la municipalité l'été dernier. Le service de contrôle environnemental du ministère de l'Environnement, qui compte plus de 300 inspecteurs, aura des moyens accrus pour intervenir, a assuré son porte-parole par courriel. Les changements annoncés prévoit des sanctions administratives pécuniaires, une hausse des amendes et des avis d'exécution, détaille Frédéric Fournier. L'entrée en vigueur étalée sur 2 ans devrait aussi aider, dit-il. Équiterre demande aussi des modifications relativement à certains usages permis dans les lieux pouvant être fréquentés par des enfants ou pour maintenir la salubrité ou l'intégrité d'un bâtiment contre des fourmis charpentières, par exemple. On n'est pas contre. Mais comment ça va être contrôlé? Demande Mme Bachand. Il faudrait une hiérarchisation de solutions alternatives reconnues afin que les pesticides de synthèse ne soient utilisés qu'en tout dernier recours, dit-elle. Équiterre salue par ailleurs le fait qu'en agriculture, tout usage de semences enrobées de pesticides devra être justifié par une prescription agronomique. Cette exigence, qui touchait déjà les semences enrobées de néonicotinoïdes, vise une meilleure protection de la vie aquatique et des abeilles, soulignent les documents du ministère. En savoir plus, 60,5 tonnes. Quantité d'ingrédients actifs utilisés qui seraient évités annuellement en vertu des interdictions proposées en milieu urbain pour l'entretien des espaces verts et des plantes d'intérieur ainsi que pour la gestion parasitaire. Source, mémoire du ministre de l'Environnement Benoît Charrette au Conseil des ministres du gouvernement du Québec, 9 février 2023. C'était un appel à limiter l'usage de glyphosate, un texte d'Ariane Kroll, paru le 8 avril 2023 dans La Presse.
Trois femmes, trois générations, trois avortements. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. L'affaire Chantal Daigle a relancé le débat sur le droit à l'avortement au pays il y a 34 ans. Un sujet encore tabou aujourd'hui, clivant par moments, dont peu de femmes se vantent. Pour ne plus le taire et toujours le défendre, trois femmes se racontent. Nos mères n'ont pas eu le choix. Marie Gray, 59 ans. Nous sommes en 1988, l'année de la décriminalisation de l'avortement. Marie Gray a 25 ans. Elle chante dans un groupe, a une voix du tonnerre et la vie devant elle. À l'époque, l'autrice, que l'on connaît, entre autres, pour ses histoires à faire rougir, n'écrit pas encore. Elle est plutôt rockeuse et pas prête du tout à être maman. On n'était pas prêts. On était des tripeux. pas du tout responsable. Encore des enfants. Elle tombe enceinte, bien malgré elle, et en dépit de son moyen de contraception du moment. Parce qu'il n'y a pas un seul moyen de contraception qui soit efficace à 100%, apprend-elle à ses dépens. À preuve, 2 ans plus tard, rebelote. Sauf qu'heureusement pour elle, et contrairement à Chantal Daigle, ça n'a jamais été un enjeu pour ses conjoints. On n'était pas prêts. Je savais que je voulais des enfants un jour, mais pas là, dit Marie-Gré. D'ailleurs, dans ma tête, je ne pensais pas à l'aspect légal. Pour moi, ça allait de soi. Elle avait le choix. Sa mère, très présente, lui apporte tout le soutien du monde et lui confirme « C'est ton choix seulement. » Je me souviens que l'affaire Chantal Daigle a été le premier événement porté par une fille de ma génération qui me faisait réaliser l'importance et le courage de ces femmes qui ont mené des combats pour obtenir ce que je tenais pour acquis, poursuit-elle. Ce n'était plus des histoires de ma mère, mais d'une fille de mon âge que je trouvais forte et admirable. Marie-Gré se félicite qu'on aborde ici le sujet. C'est tellement important d'en parler. J'ai peur. C'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, ce retour de la droite religieuse. On a beau dire qu'ici ça n'arrivera pas, il ne faut rien tenir pour acquis. Conclut la mère de 2 grands-enfants, à qui l'on doit aussi un roman jeunesse sur le sujet, « Le vertige de Gabriel » chez Guy Saint-Jean. Il est important de décomplexer ce sujet-là. Marie-Ève Milot, 39 ans. Elle avait 23 ans et sa carrière en théâtre commençait à peine. Elle prenait la pilule et est tombée enceinte quand même. Oui, c'est un choc, confirme la metteuse en scène et co-directrice artistique du Théâtre de l'Affamée. Ce qui m'a fascinée, c'est que quand je l'ai dit à mon entourage, automatiquement, c'était lié à une bonne nouvelle. Comme si le « par défaut » n'était pas l'avortement. Une réaction sous forme de pression, confirme la co-autrice de « Clandestine », une pièce inspirée de l'histoire de l'avortement au Québec, présentée en février 2023 au théâtre d'aujourd'hui. Parlant de clandestinité, « ma mère a subi un avortement clandestin, enchaîne-t-elle. Ma mère n'était pas maîtresse de son utérus. Or, dans l'illégalité et la clandestinité, tu t'exposes à tellement de choses. » Quant à elle, Marie-Ève Milot savait très bien qu'elle n'en voulait pas, et son copain de l'époque non plus. Ce n'était désiré ni pour lui ni pour moi. Mais je vais quand même le dire, il n'était pas là, se souvient Marie-Ève Milot. Oui, ça l'a déçue. Elle s'est rendue au Centre des femmes et a vécu son avortement entre femmes de tous âges au parcours diversifié. Et ça déboulonnait plein de mythes, se souvient-elle. Et ce n'est pas lié à un traumatisme. Je suis reconnaissante d'avoir eu accès à ça et de cette manière. Mais l'actualité lui fait peur. Terriblement, insiste-t-elle. Et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. On a tendance à tenir nos droits pour acquis. Mais contrôler le corps des femmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est important de décomplexer ce sujet-là, d'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, de l'exposer pour que d'autres femmes puissent s'identifier, de montrer la liberté de choix parce qu'elle doit être préservée. C'est un droit, une question de dignité et d'intégrité physique. Dans ma tête, c'était illégal partout. Maria Bejarano, 28 ans. La jeune femme originaire de Colombie est arrivée au Québec à l'âge de 17 ans. À l'époque, il y a 10 ans, elle ne parle pas un mot de français. Et dans mon pays, l'avortement n'était pas légal. Cela a pris beaucoup de luttes féministes, dit-elle. On n'avait pas beaucoup d'éducation à la sexualité non plus. Elle ne sait pas ce qu'est une relation saine, une relation intime. Je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Toujours est-il qu'elle rencontre rapidement un garçon de son âge. Elle ne prend pas de moyens de contraception parce qu'elle ne sait pas trop à qui s'adresser et qu'aucun intervenant ne parle non plus l'espagnol. Et je suis beaucoup trop gênée pour demander à mon père. Quand elle prend conscience de son état, c'est la panique. Ma vie est finie. Énorme, infini soulagement, quand son petit ami d'alors lui révèle qu'elle peut mettre un terme à sa grossesse et que l'avortement ici, c'est légal, sécuritaire et accessible. C'est légal ici? Dans ma tête, c'était illégal partout, se souvient Maria Bejarano. Oui, c'est un soulagement, dit la jeune militante féministe. Moi, je suis pour, depuis que j'ai une conscience des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce n'est pas tout le monde qui doit amener un enfant au monde. Son petit ami fait les appels, prend le rendez-vous et l'accompagne à la clinique. Il faisait la traduction pour moi, se souvient-elle. Non, elle ne le dit pas à sa famille. Peut-être qu'il se serait opposé, dit-elle. En Amérique latine, les parents vont toujours faire pression. Mais c'est notre décision. Même pas. C'est ma décision. Quelques années plus tard, plus établie dans la vie et avec un autre petit ami, Maria a finalement fondé une famille. Là, c'est très différent. J'ai une stabilité émotionnelle. Je suis prête, dit-elle. Mais si tu n'as pas les outils sociaux, économiques et émotionnels pour prendre en charge un enfant, tu ne dois pas être maman. Aujourd'hui, elle souhaite à sa fille la liberté de choisir comme elle. Et qu'elle ait confiance en moi si un jour elle tombe enceinte, parce que je suis une maman féministe et je vais toujours la soutenir. À noter que la Colombie a finalement dépénalisé l'avortement en 2022. C'était Trois femmes, trois générations, trois avortements, un texte de Sylvia Galipo, paru le 5 mars 2023 dans La Presse.
Une cause étonnante de certaines infections urinaires. Un texte de Danny Blum, paru le 8 avril 2023 dans La Presse, publié à l'origine dans le New York Times. Les scientifiques pointent une cause étonnante de certaines infections urinaires. La bactérie E. coli présente dans la viande. Une nouvelle étude a utilisé la modélisation statistique afin d'évaluer si la bactérie E. coli, source connue de nombreuses maladies d'origine alimentaire, pouvait être à l'origine de centaines de milliers d'infections urinaires aux États-Unis chaque année, ce qui représenterait une petite fraction des cas d'infections urinaires, mais suffisamment importante pour intriguer et, dans certains cas, inquiéter les experts. La nouvelle étude s'est penché sur le poulet, la dinde et le porc en particulier, car des études antérieures suggéraient que ces aliments pouvaient être contaminés par des souches de colis susceptibles de provoquer une infection urinaire. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques se demandent si les aliments sont une source potentielle d'infection. La nouvelle étude tend à montrer combien les infections urinaires d'origine alimentaire sont répandues. Une infection urinaire se produit lorsque des bactéries pénètrent dans l'urètre et infectent les voies urinaires. Parfois, une infection se développe en raison d'une mauvaise hygiène, par exemple quand on ne s'essuie pas correctement, ou d'un rapport sexuel, et certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres à développer une infection en raison de leur anatomie ou de leur patrimoine génétique. Les infections urinaires peuvent être pernicieuses et douloureuses. Les personnes qui en sont atteintes peuvent ressentir des symptômes comme une gêne au moment d'uriner ou un besoin fréquent d'uriner. Elles peuvent ressentir des crampes, de la fatigue ou une sensation de piqûre pendant les rapports sexuels. Selon la docteure Monica Wall-Rosen, gynécologue obstétricienne de la faculté de médecine de l'Université du Michigan, certaines personnes peuvent souffrir d'une hésitation urinaire, c'est-à-dire d'une envie d'uriner qui ne produit pas d'urine. Les infections urinaires touchent tant les hommes que les femmes, mais elles sont plus fréquentes chez ces dernières, car leur urètre est plus court. Les symptômes d'une infection urinaire sont probablement les mêmes, quelle que soit la source de l'infection, explique la docteure Monica Wall-Rosen. Bien que la grande majorité des infections urinaires soient bénignes et traitables, dans de rares cas, les infections urinaires peuvent être graves, voire mortelles, ce qui explique pourquoi les chercheurs sont si déterminés à en découvrir les causes. Une infection urinaire d'origine alimentaire commence de la même manière que la plupart des infections urinaires. Lorsque colis présents dans l'intestin migrent de l'anus vers l'urètre, explique le Dr. Lance Price, professeur de santé environnementale et professionnel à l'Université George Washington et l'un des auteurs de la nouvelle étude. La plupart d'entre nous transportent des bactéries E. coli dans leurs intestins, explique le Dr. James Johnson, professeur de maladies infectieuses et chercheur principal sur les infections des voies urinaires à l'Université du Minnesota et l'un des auteurs de l'étude. E. coli peut contaminer les aliments, mais les humains et les animaux peuvent également être porteurs de la bactérie et se la transmettre. La plupart du temps, cette bactérie ne nous dérange pas, seules des souches spécifiques de colis ont la faculté de coloniser les voies urinaires et de provoquer des infections urinaires. Tant qu'elles restent à leur place dans l'intestin, tout le monde est content, explique le Dr. Johnson. Ce n'est que lorsqu'elles se trompent et qu'elles vont là où elles ne devraient pas être que des problèmes peuvent survenir. D'autres aliments, notamment des végétaux, sont susceptibles d'héberger une souche de colis responsable d'infections urinaires, mais ces souches semblent plus souvent présentes dans les viandes que dans d'autres aliments, a indiqué le Dr. Price. Il n'existe aucun moyen de déterminer la source d'une infection urinaire sur la base des symptômes, bien que la probabilité d'être infecté par une source non alimentaire de colis est bien plus grande que celle de l'être par une source d'origine alimentaire, a déclaré le Dr. Johnson. D'autres bactéries peuvent également être à l'origine d'infections urinaires. Les résultats de cette étude ne signifie pas que vous devriez immédiatement changer vos habitudes alimentaires, explique la docteure Michelle Van Quicken, urologue à l'Université de Californie à San Francisco. Il n'y a pas de corrélation univoque entre la consommation de viande et les infections urinaires, dit-elle, ajoutant qu'elle voit de nombreux patients souffrant d'infections urinaires récurrentes qui sont végétariens ou végétaliens. Mais des recherches plus approfondies pourraient éclairer la façon dont le régime alimentaire peut influer sur le risque d'infection. Les récentes découvertes devraient rappeler aux gens de redoubler de précautions lorsqu'ils cuisinent de la viande, souligne le Dr. Lance Price. Cela signifie qu'il faut être attentif non seulement à la manipulation de la viande crue elle-même, mais aussi à celle de l'emballage, en particulier des jus potentiellement chargés de bactéries dans un récipient contenant du poulet cru, par exemple. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent de prendre des mesures de base pour préparer les aliments en toute sécurité et prévenir l'exposition potentielle à E. coli, notamment de se laver les mains avant, pendant et après la cuisson, d'utiliser des planches à découper séparées pour les viandes crues et d'autres aliments tels que les fruits et légumes, de veiller à ce que les viandes soient cuites à la température appropriée et de réfrigérer les aliments de manière adéquate. Bien qu'il puisse sembler contre-intuitif d'associer hygiène dans la cuisine et prévention des infections urinaires, le Dr. Johnson explique que les nouvelles recherches sur les souches de colis d'origine alimentaire montrent que ces mesures peuvent potentiellement prévenir les infections, tout comme le fait d'uriner après un rapport sexuel, de s'hydrater et de s'essuyer correctement. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment comment les infections urinaires se produisent, a-t-il déclaré. Elles arrivent, c'est tout. C'était une cause étonnante de certaines infections urinaires, un texte de Danny Bloom, paru le 8 avril 2023 dans La Presse, publié à l'origine dans le New York Times.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.